Eh ben oui, voilà, le Godin, c'est ça le Godin, le Frigidaire, la fermeture éclair, le Karcher. Oui, ça c'est des marques qui sont devenues des objets qui sont devenus des symboles. Mais quand même, quel rapport entre le Godin et le Karcher, ou Kercher, comme on voudra. Ben le Karcher, ça y est, on voit, c'est le symbole de la provoque pour racoler l'électorat du Front National, c'est la goutte d'huile qui fait déborder le feu. Mais le Godin, le bon vieux poêle de nos enfances, la petite cuisinière dans le coin de la cuisine, quel rapport et quelle histoire? Eh ben, c'est une histoire oubliée, celle du Godin, ou qui est en voie d'oubli. Et pourtant, c'est un monument de l'histoire sociale de notre beau pays. Jean-Baptiste André Godin, l'inventeur du Godin, ne fut pas seulement l'inventeur du Godin et un génial entrepreneur. Avec son familistère, il a construit bien d'autres choses et essentiellement des relations nouvelles entre l'économique et le social, entre l'entreprise et les travailleurs. Ça se passe à Guise, dans l'Aisne, non loin de Saint-Quentin. C'est là que fut construit le palais social pour loger non seulement les collaborateurs et les salariés de l'entreprise, mais on construisit aussi piscine, bibliothèque, théâtre, crèche, école, magasin d'approvisionnement, etc. Tout ça est visible et se visite aujourd'hui. On va s'y promener avec François Ruffin aujourd'hui. Et puis, à cette époque, Godin et donc les salariés de l'entreprise, des collaborateurs de l'entreprise, ont mis en place tout un système de solidarité sociale qui fut géré par les travailleurs. Au-delà même de la mort de Godin, 1888, l'entreprise a continué, l'entreprise a fermé en 1968 et fut reprise récemment et tourne à nouveau, mais sur un mode de gestion tout à fait différent, c'est-à-dire actuel, à la libérale, à la sauvage, à la dure. On va voir le rapprochement qu'on peut faire entre ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise Godin, qui ne compte que 350 ou 360 salariés aujourd'hui, alors qu'à l'époque de Godin, en 1875, il y avait à peu près 1500 ouvriers qui travaillaient. On va voir le changement d'époque, le changement de temps. Est-ce qu'une personne que nous avons rencontrée là-bas avec François a appelé un grand bond en arrière? C'est notre balade aujourd'hui, c'est l'émission d'aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je t'appelle parce que j'ai eu une formation il n'y a pas si longtemps que ça d'économie dans mon entreprise, alors que j'ai un poste très technique. Donc c'était une formation pour nous expliquer comment fonctionnait l'économie de l'entreprise. Et en tout début de formation, sur le premier thème, il y a le formateur, il avait une série de critères. C'était divers, hein, et quels sont les objectifs d'une entreprise? Donc il y avait faire du profit, être des tas de choses, faire vivre ses salariés, etc. Nous, naïvement, on a coché aussi l'aspect social, et en fin de compte, le formateur, il n'a retenu que faire du profit. C'est le seul objectif d'une entreprise. Donc c'était pour revenir par rapport à ta petite émission de ce soir. Voilà, continue, et puis à plus tard. Salut.
Oui, voilà, c'est Jacques de Montpellier. J'ai été amené à écrire un roman, Le Cheval Cabré, dont le personnage central, Jules Sibylla, a vécu au familistère de Guise pendant plusieurs années avec sa famille dans les années 1880. C'était un ferronnier d'art, un compagnon du devoir de liberté, c'était un militant anarchiste, syndicaliste, et j'ai des lettres de lui ou de gens de son entourage qui, certes, reconnaissent très bien ce que représentait comme progrès social à l'époque la vie au familistère, au point de vue assurance sociale, éducation, magasin coopératif, etc. Mais en même temps, Il y a des critiques très fortes. D'ailleurs, Sibylla, dans tous les congrès ouvriers qui suivront, qui marqueront la renaissance du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, polémiquera avec l'expérience Godin. Par exemple, voici un passage, et je m'en tiendrai là, où il est écrit dans une lettre, il parle de ce triste milieu où la misère morale semble en raison directe du bien-être matériel. Et ces ouvriers qui ne sont plus que les rouages d'une grande machine cessent pour le plus grand nombre d'être des êtres pensants. On a trop calculé, prévu, réfléchi pour eux. Il faut à l'homme plus d'initiative. Le familistère, c'est la vie de province à sa plus haute puissance. Et je plains bien sincèrement ceux qui sont obligés d'y rester.
Je suis terrorisée parce que je vois qu'il y a 3 millions de Pakistanais qui sont en train de mourir. Il n'y a aucun appel à aucune aide et je voudrais savoir ce que je peux faire. Voilà. J'ai déjà écrit à Médecins Sans Frontières pour leur demander pourquoi ils n'avaient aucun appel. J'ai écrit à Action contre la faim. Ils me répondent que merci pour mon don. Voilà. Je vois aucun appel et ces gens sont en train de mourir pendant qu'on est en train de se goinfrer. Je vous remercie de votre émission. Au revoir.
Une réflexion liée à la baisse du chômage. Dans son ouvrage de 1958, Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt écrit, en analysant l'exemple des sociétés totalitaires nazies ou soviétiques, je cite, « Le totalitarisme ne se contentera pas d'affirmer contre l'évidence que le chômage n'existe pas, sa propagande lui fera supprimer les indemnités de chômage. Ce qui est également important, c'est que le refus d'admettre l'existence du chômage réalisait la vieille doctrine qui ne travaille pas, n'aura pas de pain. » Fin de citation. Notre époque me paraît révéler de troublantes concordances. En effet, après une baisse du chômage répétée, rabâchée même, sous la barre symbolique des 10%, liée à cette autre annonce de l'augmentation des RMistes exclus et de ceux qui ne relèvent plus de l'assurance chômage, je me demande si cette propagande mensongère, utilisée avec ce fond de terreur dû à cette doctrine libérale productiviste qui pointe le péril jaune, ou la vitale compétition internationale, je me demande donc si cette ambiance de type totalitaire est appelée à se banaliser. Je porte avec espoir le désir pour les années futures d'exercer ma liberté politique, comme je le fais ce jour. À bientôt, c'est François de Rouen.
Meilleurs vœux à l'équipe de la base où j'y suis, de la part du repère Tartous et compagnie. Nous nous réunissons à Monchy-Breton, dans le Pas-de-Calais, c'est entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras, ce jeudi 5 janvier, à 18h. Nous y dégusterons de la galette des rois et parlerons de la décroissance. À bientôt.
C'est Cécile de Lyon. J'appelle pour donner des nouvelles du repère de Lyon, donc. Il va bientôt y avoir le 4e rendez-vous. Donc ça a lieu tous les premiers jeudis du mois, à 20h, à l'arrêt public des Platanes, dans le premier. Voilà, donc le prochain, jeudi, à 20h, et les deux derniers rendez-vous, là, on était une vingtaine de personnes, donc on espère que ça va continuer comme ça. À bientôt, et merci pour vos émissions. Salut!
Bonne année à tous, de la part de Bernard de Vigan, dans les Cévennes, et de l'équipe du Café Repère, qui recommence ses réunions pour 2006, le vendredi 6 janvier à 19h, au Café de l'Avenir, au boulevard des Châtaigniers, au Vigan. Bonne année encore.
Alors, il y a un truc qui m'a épaté ce matin. J'en sors de la poste, tu vois, je t'allais payer juste un mandat compte, ils appellent ça. C'est pour payer des loyers qu'on paye en liquide pour les HLM. Eh ben, là, ce qui m'a épaté maintenant, c'est depuis qu'elle est privatisée, t'es obligé de donner ta date de naissance et où t'es né. Je trouve ça un peu mal placé parce que c'est fouillé dans la vie privée des gens. Qu'est-ce que ça peut faire que quand on vient payer un loyer cash en argent liquide, hein, qu'est-ce que ça peut leur faire, quelle date, ma date de naissance, où on est né, je trouve ça ignoble, quoi. Je trouve ça fouillé dans la vie privée des gens et je trouve ça immonde. Et en plus, c'est que c'est obligatoire, t'es obligé de mettre ça et j'aimerais qu'on m'explique un petit peu, quoi, parce que j'ai du mal à suivre ça. Voilà, quoi. Ciao, mon mermet. Et puis, bonne journée à tous. Et puis, que ça se passe bien, quoi.
La moustache, ça va?
On voit un peu la moustache, mais je crois qu'on peut rien faire. Denis, un peu plus Père Noël.
Que l'on attendait, mais qu'on n'attendait pas tout de suite, parce qu'en fait, le Père Noël, qui devait venir. Alors, on va lui demander. pour le Père Noël.
Oh, j'ai même pas mis la haute.
Le prix est Père Noël, Père Noël.
Le nôtre plus,
ouais.
Plus fort. Oh, on va aller chercher. Père on va aller chercher la haute vite fait.
Bon Noël, Monsieur Godin, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec François Ruffin.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc là, il y a Jean-Baptiste Godin qui nous regarde.
Voilà, le bas-relief, il représente Monsieur Godin en train d'exposer son projet pour construire le Familistère. Donc, c'est lui qui a créé les... créer les plans.
Donc là, il en discute, il est en train de discuter avec son personnel.
Voilà, voilà, ouais, exactement. Et avant de créer son association, il a divisé son usine, si on peut dire, en départements. Vraiment dit, il y avait la fonderie, la tôlerie, enfin, il y avait une tôlerie quand même, il y avait les mailleries, il y avait la menuiserie, enfin, tous les services. Donc, il laissait gérer les ateliers par les ouvriers, par le contremaître, évidemment. C'était le préparatif à faire son... à créer son association, que les gens se gèrent eux-mêmes. Autrement dit, ce n'était pas le paternalisme. Hein.
C'est un peu l'autogestion, finalement, qu'il a inventé.
Exactement, exactement.
Et là, ouais, on va se mettre un peu à l'abri, parce que là, il pleut. Hein.
Oui.
Voilà.
Alors là, on rentre dans le pavillon central.
Alors, il faut vous dire que tout au début, M. Godin avait frappé monnaie. Il y avait une monnaie familistérienne. Autrement dit...
Ah, c'était vraiment un univers à part qu'il voulait créer.
Voilà. Hein. Les gens, pour... se servir dans les magasins d'alimentation était obligé d'avoir une monnaie familistérienne. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les bureaux de l'économat, par exemple, ils donnaient 10 francs à l'époque, et puis on leur donnait la valeur de 10 francs en monnaie familistérienne. Mais il s'est aperçu qu'un jour, que cette monnaie était valable aussi, monnayable, si on peut dire, dans les magasins de la ville. Donc il a changé de tactique. Il a créé des carnets de choix. Alors, ce qu'il y avait aussi de particulier, c'est que dans ces magasins, il affichait le prix de ses produits à côté de ceux pratiqués dans les commerces de la ville, pour montrer aux ouvriers qu'ils avaient intérêt à acheter en coopérative, où les prix étaient inférieurs. Vous voyez que tout était prévu, quoi.
Si j'en ai encore. Si j'en ai encore, t'en auras un. Eh ben tiens, eh ben voilà. Ah, tu fais un bisou ?
Un monument de l'histoire sociale française, le Familistère à Guise, dans l'Aisne, à côté de Saint-Quentin. Ça se visite aujourd'hui, vous pouvez rencontrer Monsieur Pat, là, qui se balade avec nous. Il habite là, c'est un Familistérien, il nous l'a dit hier. Il est de la quatrième génération de ces gens, de ces salariés qui sont devenus des membres à part entière de cette on peut dire communauté, non, disons famille, puisque c'est Familistère le mot qui a été choisi. Expérience sociale, expérience économique, expérience politique aussi, tout simplement, que celle menée par Godin, par cet industriel qui au milieu du 19e siècle, après avoir fait ses études de serrurier comme compagnon du Tour de France, après avoir été confronté aux réalités sociales de son pays, et notamment la misère des ouvriers, construit cette entreprise qui va fabriquer des poêles de chauffage en fonte. Les anciens se souviennent des poêles Godin dans les écoles. Toutes les écoles de France étaient jadis équipées de poêles Godin dans lesquelles on mettait soit du bois, soit du charbon. Et puis toutes les maisons, cette auditrice se chauffe encore toute heureuse avec son poêle Godin. Donc, ils fabriquent des poêles Godin en fonte, puis ensuite en fonte émaillée, etc. Mais c'est pas seulement une entreprise industrielle qui va réussir, qui va prospérer formidablement. C'est aussi, peut-être même avant tout, une entreprise sociale, d'innovation sociale, et où on cherche plus l'épanouissement des salariés, des collaborateurs de l'entreprise, que simplement le profit. Alors on va inventer beaucoup de choses contre le système libéral, disait Godin lui-même, le contre le système libéral fondé sur l'égoïsme, où le social est étouffé par l'économique. On dirait des phrases actuelles, des phrases d'altermondialistes. Eh ben, peut-être que, sans le savoir, Godin était avant la lettre un altermondialiste. Jean-Baptiste André Godin, 1817-1888, a laissé quelque chose qui se visite, ce palais social, le palais, le Versailles des ouvriers, et avec un théâtre, avec une piscine, avec une bibliothèque, une nurserie. École, il était à l'avant-garde pour l'éducation obligatoire, pour garçons et filles mixtes, des écoles mixtes, etc. Et ça a été une aventure tout à fait réussie, parce qu'on parle toujours d'utopie. Une utopie, évidemment, c'est un projet, c'est une idée, ça ne se réalise pas. Là, c'est une utopie qui s'est réalisée, qui a continué après la mort de Godin, l'œuvre a été prolongée par son épouse, qui était, elle, une femme remarquable, Marie Moret, notamment une féministe qui luttait pour les droits de la femme, pour la place de la femme, l'égalité de la femme, et ce, en plein 19e siècle. Et l'entreprise a continué sous une forme coopérative jusqu'en 1968. C'est ininventable. Et je me souviens qu'après 68, on s'intéressait beaucoup, notamment à cette entreprise, mais à d'autres expérimentations, alors qu'on appelait les socialistes de l'utopie, dont Fourier, Proudhon, etc., qui nous passionnaient à ces époques-là. Et puis l'entreprise a périclité, a été rachetée, je le disais, et puis maintenant, c'est une entreprise comme une autre, avec une gestion comme on fait aujourd'hui, et qui a conduit les 341 salariés et 65 intérimaires à faire grève, 12 ou 13 jours de grève au mois de novembre, parce qu'ils demandaient une augmentation, tout simplement. Alors le patron s'est même pas donné la peine de leur répondre, malgré les interventions d'intermédiaires, d'autorités locales, etc. Absolument aucune espèce de réponse. Et puis il a même refusé de donner les fonds, de débloquer les fonds nécessaires au rituel arbre de Noël pour les enfants des salariés. Et voilà pourquoi on y est allé avec François Ruffin ce jour-là, pour souhaiter un bon Noël à Monsieur Godin.
Qu'est-ce que vous avez fait grève il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce que vous vouliez pendant cette grève?
200 euros. Ça, c'était la dernière grève. La prochaine, ça sera plus.
Là, on a fait une suspension de grève parce qu'il y a le Noël et puis le jour de l'an. Mais si on n'a pas avoir de négociation au mois d'avril-mai, c'est sûr qu'on va attaquer.
Au lieu de faire 6 à 7 bacs par jour, je suis descendu à 3 bacs. Hein. Bon, je speedais, vu qu'on n'a rien eu, j'ai baissé la cadence.
Mais enfin, c'est pas 13 jours de grève pour rien, parce que on a quand même marqué les esprits, et surtout l'unité dans l'entreprise. Ça, c'est important.
Et puis l'unité avec la ville, je crois. Avec la ville, avec tous les gens qui vous soutiennent, parce que je crois que tout le monde est vraiment écœuré de ce que vous vivez. Ça, c'est clair.
Ici, c'est un client, en définitive, Godin, qui, lui, nous a donné 200 euros.
Et il dit quoi, le client ?
À tous les salariés de l'entreprise Godin, un joyeux Noël en famille, que notre participation à votre arbre de Noël soit pour vous une source de réconfort et vous aide à surmonter vos difficultés. Continuez à nous fabriquer des poêles avec toujours autant de conscience professionnelle que vous exercez depuis longtemps et faites de nous des distributeurs heureux de vendre des produits de qualité fabriqués par des femmes et des hommes de notre... J'arrive plus à lire.
Région.
De notre région, amicalement, Jean-Luc Lefebvre. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ouais. De voir qu'il y a des gens qui pensent encore à nous quand même.
Sicilienne.
Une napolitaine.
Une napolitaine. Une salade. Une boisson.
Alors le catalogue des produits Godin, magnifique cuisinière, magnifique appareil de chauffage aujourd'hui, se présente en disant depuis l'origine, depuis 1840, le même souffle initié par Jean-Baptiste Godin a poursuivi le même objectif, améliorer le quotidien, donner du bonheur et de la joie de vivre à chacun. Après avoir mis un chauffage efficace et sûr à la disposition du plus grand nombre, c'est aujourd'hui au service de nos cuisines que les ingénieurs de Godin ont apporté leur savoir-faire. Voilà, c'est la présentation du catalogue. Mais on voit bien qu'il y a un vrai détournement, il y a un véritable détournement et de l'esprit de l'entreprise Godin et de ce fameux souffle. Et puis aussi une véritable tromperie du prix sur les conditions dans lesquelles ces appareils et ces instruments sont fabriqués et la façon surtout dont les personnels sont traités, c'est-à-dire par le mépris, par l'ignorance la plus sauvage. On revient effectivement à l'esprit du 19e siècle et on va s'en rendre compte en dégustant les pizzas là à Guise. Avec, avec à la fois un historien, avec aussi les salariés d'aujourd'hui de l'entreprise Godin.
Donc là, on se trouve à la pizzeria Don Camillo dans le centre de Guise. De Guise. Tout le monde a le nez planté dans le menu pour choisir sa pizza. Donc on se trouve avec Guy Delabre. Donc ça c'est le spécialiste de Godin au 19e siècle et il est entouré des spécialistes de Godin au 21e siècle.
Bois Pascal et Berber depuis 1976.
Et vous gagnez combien ?
966 euros par mois et virgule quelques centimes quoi. J'ai une famille, 4 enfants. Avec, je suis en HLM, bon, je paye 136 euros le loyer, 140 euros d'EDF. Par mois, ça fait quasiment à peine 600 euros moi pour vivre un mois que à 5, 6 avec moi quoi. Là, on prépare le Noël des enfants pour ce soir le spectacle. Il aura lieu à 18h30. Et puis qu'on remercie en fait la Ligue des droits de l'homme et de l'enfance qui a permis d'organiser ce spectacle justement. Parce que notre patron n'a pas voulu payer ce spectacle. Il coûte 1500 euros à proximité quoi. Les commerçants de Guise, les écoles des alentours, on fait comme une quête, pour moi c'est une quête quoi. Comme je dis, c'est quand même malheureux d'en venir en faisant bientôt l'aumône pour faire un Noël de nos propres enfants de la société d'usine Godin qui a énormément d'argent. C'est la honte qu'on a quoi. Moi j'ai jamais été à la Croix-Rouge, la première fois que j'y viens de ma vie, en travaillant, j'étais mal dans ma peau. Hein. Et bon, j'ai dit, il y a pas, faut que j'y aille, j'ai des enfants, ça apportera quelque chose quand même pour les enfants. J'ai eu un beau colis, je m'en plains pas, quoi.
C'était quoi dans le colis ?
Ouais, il y avait un peu de toutes sortes. Il y avait des raviolis, il y avait des pâtes, des gâteaux, du fromage, du lait. J'ai eu 12 litres de lait, ça m'a apporté quand même.
Des yaourts,
oui.
Vous y êtes allé aussi ?
Ouais, je me suis pas gêné. J'avais droit, j'y étais aussi.
En plus, moi, j'ai tombé sur un habitué, moi, de la Croix-Rouge, en fait. Et j'y suis allé pour chercher mon collet. Il m'a insulté de feignant. J'avais pas besoin de faire grève. Ah, j'ai le tour. Espèce de feignant, t'as pas besoin de faire grève, t'aurais de l'argent.
Parce que lui, il a pas d'emploi. Il avait pas d'emploi.
Lui, c'est un habitué de la Croix-Rouge. Tous les mois, il est là-bas. C'est son magasin général. C'est son magasin général, celui-là. Oui. Lui, il a l'air de se dire, tiens, il va venir me piquer tout ce qui est à moi, là. C'est quand même dommage, quand on va qu'il faut aller à la Croix-Rouge.
C'est un peu comme si, ayant un emploi au SMIC, aujourd'hui, on était devenus vous étiez devenus des privilégiés.
Ouais, parce qu'en plus, ils arrivent comme ça, et nous, on avait notre bon spécial Godin et tout, et
Eux, ils étaient méchants, en fait, parce qu'eux, ils donnaient une cotisation de 3 euros pour avoir droit à leur colis. Et nous, on donne absolument rien. Alors c'est là que ça dégénère un petit peu, quoi.
Monsieur Delabre, on avait Jean-Baptiste André Gaudin qui, au 19e siècle, rêvait de justice sociale. Et là, quand même, ce qui nous est décrit, c'est le retour à la charité.
C'est très exactement ce que Gaudin dénonçait, c'est-à-dire l'absence de dignité reconnue au travail. Et donc, on a le sentiment, en entendant ces témoignages tout à fait bouleversants, qu'on a fait un formidable bond en arrière. On est au 19e siècle, c'est-à-dire à la situation où un maître de forge, un patron détenant le pouvoir absolu, au mépris des intérêts fondamentaux de ses collaborateurs, en l'absence, à l'époque, de toute réglementation sociale, avait droit de quasiment de vie et de mort sur ses salariés.
Quand on a fait grève, on voulait, on l'a pas fait, mais on voulait que quelqu'un monte sur la statue pour mettre un bandeau aux yeux de Jean-Baptiste. Parce qu'on s'est dit, le malheureux, quand il voit comment ça tourne, il doit se retourner dans sa tombe. Je crois qu'il serait défait, il aurait honte, il serait malheureux de voir comment ça tourne.
Alors là, il y a le service qui arrive de pizza.
S'il vous plaît. Non.
C'était pas pour toi.
Non, moi c'était une paysanne qui commandait.
Vous, pendant la grève qui a duré quand même 13 jours, vous avez rencontré le patron, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
On n'a jamais rencontré le patron, il n'est jamais venu nous contacter, faire un dialogue, quoi que ce soit, on ne l'a jamais vu.
Il n'est jamais venu, patron ?
Non, jamais. Non, il a même eu affaire à un médiateur qui l'a contacté, mais il n'a pas voulu dialoguer, quoi que ce soit.
Il n'a même pas voulu dialoguer avec le médiateur.
Il n'a absolument pas voulu dialoguer avec le médiateur.
Préfet.
Avec qui que ce soit.
Qui est-ce qu'il y a eu d'autre ?
Préfet, sous-préfet. Il n'a pas voulu les recevoir non plus.
Le maire de Guise.
Conseiller général.
Le maire de Guise aussi.
Il faut carrément le dialogue.
Monsieur Delabre, on est passé tout à l'heure autour de la statue de Jean-Baptiste André Gaudin. Sur l'un des versants de la statue, sur l'un des reliefs, on voyait qu'il discutait avec ses salariés pour organiser la production.
Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de dialogue, effectivement, et donc la distance sociale, mais aussi distance tout court dans le fonctionnement du système entre une direction et le terrain de ceux qui font marcher l'entreprise. Quand Gaudin vit au milieu de son personnel, on a vu tout à l'heure son appartement au Familistère, c'est aussi parce que il a la conviction que le responsable de l'entreprise doit être au contact de la réalité du personnel qui l'a fait fonctionner, cette entreprise. Donc la distance qu'il y a actuellement entre le personnel et les dirigeants de l'entreprise, distance qui paraît d'ailleurs immense, c'est quelque chose qui n'existait bien évidemment pas pour Gaudin.
Monsieur Delabre, qu'est-ce qu'il aurait fait, Jean-Baptiste Gaudin, s'il avait eu ces 4,3 millions d'euros, donc un peu moins de 30 millions de francs de bénéfices sur un an ?
La philosophie de Gaudin est bien évidemment que le résultat de l'activité, bon, il est destiné à financer le développement de l'entreprise, mais il n'est pas destiné à rémunérer le capital. C'était les salariés eux-mêmes qui décidaient de leur sort au sein de l'association autogérée.
Et si on vous proposait de virer Marc Philippe et de reprendre la boîte en autogestion avec le pouvoir aux travailleurs, qu'est-ce que vous en penseriez ?
En fait, il faudrait retrouver notre ancien PDG qui soit aussi fort au niveau du travail, des recherches, de l'approche du personnel. Notre ancien PDG était comme ça.
Vous ne voudriez pas être vos propres patrons, vous ne voudriez pas être en autogestion ?
Non, absolument pas, c'est pas ce qu'on voudrait.
Pourquoi ?
Il faut savoir quand même s'y connaître dans ce truc, je sais pas moi. C'est pas nous qu'on pourrait faire ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oh, je suis comme notre collègue. Hein. On est capable d'apprendre l'usine, mais on est capable de travailler. Hein. On l'a toujours fait. Hein.
Nous, c'est les bras qui marchent, c'est pas notre tête.
Ouais.
Il
faut avoir l'étoffe.
Ce qui nous manque, c'est un PDG.
Un chef.
Un vrai.
Un chef.
Comme on avait avant.
Ouais.
Monsieur Delabre, Là, quand on voit qu'on propose l'autogestion et finalement elle est refusée, ça c'est pas dans l'utopie de Godin. Et Godin, il s'est heurté d'ailleurs lui-même à cette difficulté, puisque c'est quasiment comme s'il voulait céder son entreprise à ses employés malgré ses employés.
Je crois que les réponses que vous venez d'entendre, elles font référence aussi au système ambiant. Que ferait aujourd'hui un système autogéré dans un environnement libéral, capitaliste, foncièrement, fondamentalement hostile à ces formules d'autogestion? C'est l'échec.
Chers amis, je viens d'être embauché dans une place qui est vraiment si belle que je trouve rien à lui reprocher. Le patron lui-même est un modèle. Il veut pas nous voir travailler, peur que ça fasse tomber notre graisse, et comme il ne pense qu'à nous payer, toutes les heures, on passe à la caisse. Le matin, tu le coûtes 6h15, c'est le patron couvre sa cambuse, et quand nous arrivons en retard, c'est lui qui nous fait des excuses. Il dit, c'est bien que c'est pas très gai de ne pas faire la grasse matinée, mais si vous êtes trop fatigué, vous ferez un somme dans la journée. L'autre jour, il nous dit, mes enfants, il va falloir que je vous augmente, sans ça, je vois bien qu'au bout de quelques temps, je finirai par avoir des rentes. Que j'ai, je vous le donne sans détour, ça sera peut-être pas encore le rêve, mais ça vous fera 20 francs par jour à bouffer quand vous serez en grève. Aussi, je l'avoue, on aurait tort de lui demander de nouveaux sacrifices. On a la clé de son coffre-fort et on se partage ses bénéfices. Il turbine pour nous jour et nuit, dame, l'ouvrage se fait pas tout seul, et quand nous ne sommes pas contents de lui, il faut voir comment qu'on l'engueule.
Une chanson de Paul Lac, d'un certain Paul Lac, qui date de 1909. Les joies ouvrières. Godin s'était beaucoup penché sur la condition ouvrière de son temps, et bien sûr que malgré tout, on dit c'est un grand bond en arrière, c'est vrai, mais c'est qu'en partie vrai. Il faut quand même bien être un peu juste si on veut avancer. La condition ouvrière décrite par Godin en 1848 dans sa région, dans le Tirache. Écoutez ce qu'il disait des tisserands, de ceux qui travaillaient au tissage, du tisserand lui-même. Il est obligé, dit Godin, écrit Godin, de faire pour un franc 13 mètres de toile de 75 cm de largeur, pour le tissage de laquelle il faut lancer la navette 2800 fois par mètre. Sur cette modique somme, il doit prélever de quoi payer la femme ou l'enfant qui fait sa trame, les frais d'outils, de loyer et d'éclairage. Tel est le sort de l'ouvrier le plus capable, celui qui travaille de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Pendant les courtes journées de l'hiver, il ne peut travailler que le jour. S'il voulait veiller, le produit de son travail suffirait à peine pour le dédommager du peu de bois qu'il serait obligé de brûler et de l'huile que consommerait sa sombre lampe. Il est donc condamné à se coucher dès que la nuit est venue. Voilà, donc c'était des observations faites par Godin sur la condition ouvrière à l'époque. On a fait des progrès considérables depuis. Le familistère de Guise témoigne de ces progrès considérables. On peut parler véritablement de révolution, mais on ne peut pas s'empêcher de constater et de déplorer la régression actuelle qui se caractérise là dans cette situation entre ces salariés d'aujourd'hui et ceux de l'entreprise de jadis, dans ce palais social, ce familistère où on va se balader avec Monsieur Pat.
Là, ça résonne un peu parce qu'on se trouve donc, on se trouve dans le pavillon central. Et là, on entend la pluie qui tombe en fait sur la verrière.
Exactement.
La cour centrale servait à la réunion des élèves de l'école du Finistère. C'est-à-dire qu'on se réunissait avant d'aller à l'école. Hein, et donc, on jouait dans la cour. Et au coup de sifflet du directeur, on se mettait en rang par classe. Et on traversait cette grande place en chantant. De bon, j'ai vu passer le train, etc. Quoi. Alors, dans cette cour, on a récupéré deux plaques en marbre. Donc, on va les voir. Alors, là, vous allez lire les pensées de Gaudin. Là. Dieu nous soit en aide. C'est les pensées de M. Gaudin en 1859. Donc, il était déiste.
Il croyait en Dieu, alors?
Il croyait fermement en Dieu. Mais il est devenu anticlérical. Pour la bonne raison, c'est quand il va faire son tour de France comme compagnon du devoir, non seulement il va s'apercevoir de la misère profonde du monde ouvrier, mais il va s'apercevoir aussi que l'Église est trop près de la bourgeoisie, qu'elle ne s'occupe pas assez du monde ouvrier. Donc là, il va devenir anticlérical. Et c'est pour cette raison-là que vous ne verrez pas sur le site du Finistère une chapelle ou une église.
C'est-à-dire que M. Gaudin pensait aux ouvriers déjà avant même d'être riche, quoi.
Oui. Eh bien, parce qu'il avait souffert pendant son tour de France. Il avait connu ce que c'était que le travail à l'époque. Il commençait à 5h du matin pour finir à 8h du soir. Donc, il savait que c'était d'être ouvrier, c'était pénible. Quoi. Il fallait. C'est pour ça qu'il a dit, si un jour je m'élève au-dessus de la condition de l'ouvrier, je chercherai les moyens de lui rendre la vie plus douce, plus supportable, et de relever le travail de son abaissement.
Donc ça, il disait ça quand il était pauvre. Quand
il a fait son tour de France.
Donc lui, il était pauvre avec les pauvres. Voilà. Il disait, si jamais je suis riche...
Voilà.
Mais alors, est-ce qu'il a tenu promesse?
Ah, bah exactement, puisqu'il a construit les Finistère. Il a construit un palais social. Alors c'est dans cette cour qu'avaient lieu les festivités. Et donc, il y avait la fête de l'enfance. Ici, il y avait le podium, je le vois encore dans mes yeux. Forcément, les balcons étaient garnis de banderoles, de drapeaux. De l'autre côté, c'était le podium pour l'harmonie. Puis alors, en 1867, ça c'est une date très importante, il va créer sa fête du travail, la fête du travail.
Mais ça vient pas d'ici quand même, la fête du travail.
Si. En 1867, on peut dire que c'est Monsieur Gaudin, le créateur de la fête du travail dans le monde.
C'est ici, à Guise.
Ici, à Guise. Oh,
vous êtes un peu chauvin.
Non. La première fête du travail a eu lieu à Guise. Contrairement à ce qu'on peut vous dire, on peut dire que c'est les Américains qui ont créé ça, c'est pas vrai. C'est en 1867, la première fête du travail a eu lieu à Guise. Et je vous l'ai dit, ils remettaient des diplômes et des médailles à ses ouvriers. Par conséquent, on peut dire que le créateur de la fête du travail dans le monde, c'est Jean-Baptiste André Gaudin. Et ça, c'est très important.
À Guise, dans l'Aisne.
À Guise, dans l'Aisne, exactement, en tirage. Puis le soir, il y avait balle de nuit. Alors, servait de couloir d'accès pour la nourricerie et le bambina qui se trouvaient derrière. Donc, dès la naissance, les mamans qui travaillaient pouvaient amener leur bébé le matin et le reprendre le soir. Donc, les bébés avaient été soignés, nourris et tout ça gratuitement. Il était pour l'évolution de la femme. Dans chaque comité qu'il va créer, il va, si on peut dire, incorporer autant de femmes que d'hommes. Et ces femmes auront le droit de vote.
Les femmes?
Exactement. Elles sont membres associées, elles votent.
Oui, donc ici,
à l'époque, c'était la trappe aux balayures. Hein. C'est là qu'on venait jeter nos ordures ménagères.
Mais ça, c'était Gaudin qui l'avait pensé aussi?
Absolument. Un vide ordure, donc ça tombait dans les caves. Et puis, il y avait un service qui ramassait les ordures peut-être tous les deux jours avec... Je vois encore, c'était encore un cheval avec un tombereau. L'eau à chaque étage, un vide-ordure, des toilettes. Alors ici, c'était les toilettes dames, vous voyez, on voit encore l'emplacement d'une porte. Puis ici, c'était les toilettes hommes. Thank you.
de l'appartement.
Oh, je vais les dire.
Voilà, mais il fait pas chaud dehors, hein.
Il fait pas chaud.
Oh non.
C'est l'hiver.
Il pleuvait encore un peu quand on était devant la statue. On va voir un petit coup sur le nouveau statue.
Alors là, on se trouve dans le salon de monsieur et madame Pat. Et vous, madame, vous êtes également familistérienne depuis quatre générations ?
Non, moi, je suis familistérienne depuis mon mariage. Donc, je ne suis pas née au familistère, je n'ai pas été élevée à Guise. D'après les statuts Godin, lorsqu'un jeune homme, un jeune familistérien se mariait, il devait présenter sa fiancée au conseil d'administration Godin. Et moi, venant de la région parisienne, une enquête préliminaire avait lieu dans le pays d'origine de la jeune fille.
C'est-à-dire qu'il y avait une enquête qui était faite par...
Sur la moralité de la jeune fille. Parce que finalement, ce qu'il voulait, M. Godin, c'était, autrement dit, sélectionner un petit peu la population familistérienne. Donc il voulait qu'il y ait des gens d'une certaine moralité. Donc c'est pour ça qu'il avait créé cette fameuse enquête qui s'est... Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, si on peut dire... est obligé de passer devant le conseil d'administration pour être admise familistérienne.
Mais ça, c'était prévu par Godin à l'origine ?
Ah, c'était dans les statuts. C'était dans les statuts, ça, il n'y a rien à faire. Donc, on donnait à la jeune, future jeune mariée un règlement intérieur du familistère. Il fallait qu'elle suive ce règlement-là ou qu'elle respecte le règlement. Mais d'être admise familistérienne avait un double but. Si, par exemple, au cours de la vie, je venais à disparaître, mon épouse était prise en charge par l'association et les enfants, personne n'était abandonné au familistère.
Alors, vous me montrez, vous dites règlement, vous montrez un...
Ben là, j'ai un petit livre qu'on remettait à la future jeune épouse. Règles, conseils et mesures d'ordre domestique à l'usage des habitants du familistère. Alors, dedans, il y avait le règlement, le lavage du linge, par exemple. Nul ne doit faire la lessive ni laver son linge à domicile. Cela produit dans le logement des émanations et de l'humidité nuisibles à la santé et contraires à la conservation des appartements. Moi, j'ai porté le panier de linge à laver à la buanderie pour que ma mère puisse laver le linge et ma grand-mère pareil. Ah oui, moi j'ai fait toute mon enfance au sein du familistère et même dès ma naissance, j'ai dormi dans les petits fameux berceaux, là, au Bambina Nourrisserie. Et la particularité de ces berceaux, c'était qu'ils étaient remplis de 11 kilos de son.
Du blé, quoi, un genre de blé.
Voilà ce qu'on récoltait quand on avait écrasé le blé, il y avait le son. Donc, il y avait 11 kilos de son dans ces berceaux, on mettait un linge sur le son, on posait le bébé, et forcément, le bébé, quand il avait fait pipi, le son s'agglomérait. Comme la litière du chat, si vous voulez. Et puis, on enlevait la partie humide, qu'on ne jetait pas, car à l'époque, ça pouvait servir aux animaux de basse-cour qui se trouvaient dans l'économat. On remuait le son qui était sec, on mettait un linge, et de cette façon, le bébé était toujours sec. Autrement dit, si on voulait ironiser, Pampers n'a rien inventé, humide, mais toujours au sec.
Et donc ça avait été pensé par M. Godin aussi ?
Ah, oui, absolument, absolument.
Il avait été jusqu'à penser la manière...
Ah, d'élever les enfants, dès les premiers âges, ça y est, Monsieur Godin, pour moi, ça a toujours été un être exceptionnel, un bienfaiteur pour le monde ouvrier. On peut considérer qu'au familistère, à l'origine, c'était le berceau du socialisme à l'état pur.
Alors évidemment, Monsieur Pat est enthousiaste. Hein, il est fier de cette histoire, de cet endroit. Il a bien raison, mais enfin, c'est pas pour autant que on ne peut retenir des critiques sur la discipline, certains aspects collectivistes, l'ordre moral, le contrôle de tout partout, etc. Mais enfin, ça a été une expérience formidable qui est encore riche de débats possibles sur la condition sociale et sur la condition ouvrière. Donc, ben voilà, un siècle et demi après ce qu'on vient d'évoquer, voilà, ce jour de Noël bien particulier pour les actuels salariés de Godin.
Alors là, vous êtes venus, on est à la salle des fêtes de Guise.
Oui.
Ah, moi j'ai participé, j'ai apporté la soupe populaire.
Pendant la grève ?
Ah oui, parce que moi je suis solidaire, j'ai un fils, un mari, un fils, un gendre qui travaille là. Donc la première, j'ai ouvert mon congélateur, puis j'ai sorti tout ce qui restait du jardin, j'ai fait de la potasse, poireaux, des navets, des carottes. À la fin, je leur ai mis un morceau de beurre dedans quand même pour leur donner des forces. Mais des marmites, j'ai eu 5 enfants, j'en ai fait toute ma vie. Donc je suis pas une marmite près. J'ai un fils qui a travaillé à la peinture, qui revenait dans des états pitoyables, qu'on était obligé de nettoyer au diluant. Et on était obligé de se mettre à deux, hein. Un qui lui nettoyait le ventre, l'autre qui lui nettoyait le dos, parce qu'il était rempli de peinture, qu'il s'en allait pas. Et suivant les peintures, des fois il était 3 jours sans pouvoir manger parce que son estomac ne supportait pas les produits.
Et pourquoi il a arrêté de travailler là-bas là ?
Eh ben, il était intérimaire et puis il supportait plus. Alors en fin de contrat, il a dit je repars plus. Et puis moi je suis allée avec lui aux ACDIC et puis j'ai essayé pour dire écoute, c'est du travail. Et le monsieur à l'ACDIC m'a dit, madame, pour travailler avec un nœud dans le ventre, c'est pas une solution. Il m'a dit il vaut mieux faire autre chose.
Et donc il a fait quoi finalement ?
Après, il a fait malheureusement des petits boulots. Il a travaillé dans la maçonnerie. Alors là, dernièrement, il a travaillé dans la couverture. C'était un contrat par la NPE. Il s'est fait mal au genou. Il a arrêté 6 mois de travailler en accident de travail. Le contrat est terminé, le patron ne l'a pas repris.
Et donc il fait quoi maintenant ?
Rien. Il est à la recherche d'un emploi et ça c'est pas évident. Et puis avec notre nom, retourner chez Godin, je pense pas que ce soit évident.
Il n'y a pas tellement d'emplois dans la tirage. Donc finalement on peut pas
se passer de cette entreprise. On en a besoin.
Donc on peut pas finalement dire je donne ma démission et puis je pars et je vais voir ailleurs.
Non, c'est pas possible.
Et il y a 30 ans, on pouvait faire ça ?
Ah, il y a 30 ans, moi, mon mari, quand il en avait marre de travailler à un endroit, il disait je vais voir ailleurs. Il revenait avec du travail. Il pouvait partir d'une entreprise pour aller dans une autre. Maintenant, c'est terminé.
Tu disais merde au patron, le lendemain, t'avais du boulot. Hein.
Martin Lunel, il parle de déplacer 50 personnes pour aller en Normandie. Nos petits-enfants, ils ont intérêt à faire des études et puis à prendre leurs jambes à leur cou et puis à partir. Hein.
Alors, on est avec Francine et on est avec Geneviève Loué, qui est la présidente de la Fondation Godin. Là, vous êtes professeur au lycée technique, c'est ça ?
Au lycée professionnel de Guise, oui.
Et alors, c'est quoi pour les élèves, les perspectives ?
Pour un certain nombre d'élèves qui sont parmi les plus courageux, certains arrivent à s'intégrer dans le monde professionnel. Mais la grande, grande majorité n'a absolument pas de travail sur Guise ou sur la région. Quand j'ai commencé à travailler dans cet établissement, les entreprises téléphonaient en cours d'année pour retenir les élèves à la sortie de façon à leur offrir un travail. On avait environ 9 dixièmes des classes qui, avant même de passer leurs examens, étaient embauchés d'office. Maintenant, on a un taux à peu près de 95% de chômeurs parmi nos élèves.
Alors là, on rentre dans les coulisses où le Père Noël est en train de s'habiller.
Il est en train de perdre son pantalon.
Alors le Père Noël, c'est qui le Père Noël ?
C'est Denis. Habituellement, je travaille l'entretien chez Godin.
Quand vous travaillez chez Godin, et là aujourd'hui, vous faites le Père Noël alors ?
Je fais le Père Noël.
Vous êtes polyvalent alors chez Godin ?
Je suis polyvalent surtout, oui.
Alors là, vous êtes en train d'enfiler la perruque avec tous les cheveux blancs qui vous tombent sur la tête. Vous aviez oublié la barbe. Alors là, on cache Denis parce qu'il y a des enfants qui passent dans les coulisses et on ne voudrait pas qu'ils découvrent le Père Noël sans qu'il porte encore sa perruque et son bonnet.
Je vais peut-être me mettre derrière les...
des paravents. Et le Père Noël, il a fait grève ?
Oh, il a fait grève 13 jours comme tous les salariés de Godin.
Et le Père Noël, il gagne combien tous les mois ?
Oh, il n'y a pas de salaire pour le Père Noël. Mais pour le mécanicien, il y a un petit peu plus de 1000 euros. Les fins de mois sont toujours très difficiles, hein, parce qu'on ne peut pas s'offrir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait.
Qu'est-ce qu'il voudrait, le Père Noël? Parce qu'il offre tellement de choses aux enfants qu'il faut bien qu'il ait quelque chose, quand même.
Le Père Noël, il voudrait déjà une vie meilleure. Partir en vacances, partir au soleil.
Il part pas, il voit jamais le soleil, il est toujours dans la nuit polaire.
Dans la nuit polaire.
De la Guise, de l'Aisne.
Et puis de temps en temps des Ardennes. Je vais rendre visite à ma mère, mais bon, ce n'est pas des vacances quand même. Mais l'année prochaine, ça va être niette encore.
Ah bon?
Ah ben, je pense que oui.
On va y aller là.
Ouais.
On va y aller, là on enfile la perruque. Ça, c'est le sachet de bonbons pour les enfants.
Oui.
Je peux suivre le Père Noël?
Oui, bien sûr. Pardon. La moustache, ça va?
On voit un peu la moustache, mais je crois qu'on ne peut rien faire. Denis, un peu plus Père Noël.
Que l'on attendait, mais qu'on n'attendait pas tout de suite, parce qu'en fait, le Père Noël, qui devait venir. Alors, on va demander pour que le Père Noël.
J'ai même pas mis la haute.
Père Noël.
Il y a une haute?
Ouais.
Alors, on va aller chercher. On va aller chercher la haute vite fait.
Père Noël.
Alors là, le Père Noël, il enfile la haute en vitesse. On suit le Père Noël. Oh là là, il est vieux, il boite le Père Noël.
Quoi ? Je veux qu'on ait une voiture électrique.
Toi, tu t'as demandé une voiture électrique ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu voudrais faire Père Noël plus tard comme métier ?
Je sais pas encore.
Est-ce que tu voudrais faire directeur d'usine plus tard ? Est-ce que tu voudrais faire salarié gréviste plus tard ?
Je sais
pas. Il a été gréviste, il a fait grève, ton papa ?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que ça veut dire faire grève alors ?
Pas travailler et rester à côté de l'usine, pas devant l'usine. Parce que mon papa, il travaille là-bas, il a déjà fait la grève.
Et pourquoi il a fait la grève alors ?
Parce qu'il avait tout dépensé ses sous. Ils ont donné 1000 euros pour toute la maison. Il a passé tout.
Et toi, plus tard, tu sais si tu veux faire Père Noël ?
Oui, parce qu'il donne des cadeaux, puis il donne des bonbons.
Il veut faire Père Noël plus tard.
Ah, c'est un très beau métier.
Tu sais ce qu'il faut faire comme études ?
Non.
Oh, il faut faire au moins une centaine d'années d'études, apprendre à aimer beaucoup les enfants.
Est-ce qu'il faut aimer les salariés en grève quand on est Père Noël aussi ?
Ah oui, surtout, beaucoup.
Elles sont encore un peu noires, les mains que montre le Père Noël.
Un petit peu, ça c'est le travail. Parce que malheureusement, bon, pour nourrir mes reines, je suis obligé de travailler comme un forcené chez Godin.
Voilà, joyeux Noël, monsieur Godin. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à monsieur et madame Pat, Geneviève, Douai, Guy Delabre, Vincent, Xavier, Marielle, Jackie, Pascal, Jean-Pierre et tous les salariés de chez Godin. Merci aussi à France Bleu Picardie, technique aujourd'hui Lévin Caron et Ludovic Asselot. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le. Pascal Yello, Christophe Imbert est au répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour La Belle si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Bruno Duvic. Salut!